On s'attend souvent, lorsqu'un système subit une pression extrême, à ce que la rupture soit vraiment nette, tu vois, visible.
Ouais, un truc binaire.
Voilà, un peu comme en ingénierie. On plie une poutre au métal, elle résiste, puis bah, elle casse avec un grand fracas. Ou en médecine, on passe une radio, on voit la fracture, la ligne blanche bien nette sur l'os. Ça tient ou ça lâche, quoi.
C'est une vision très rassurante de la réalité, en fait. L'esprit humain adore ce qui se catégorise facilement. Trouver la cause, observer les faits.
Identifier le point de rupture exact.
Exactement. Sauf que les systèmes complexes ne fonctionnent absolument pas comme ça.
Et c'est précisément ce qui rend notre exploration analytique d'aujourd'hui si captivante. Parce que lorsqu'on observe des nations entières, des institutions ou même des dynamiques géopolitiques sous pression, bah cette radiographie devient incroyablement floue.
Le point de rupture n'est presque jamais un claquement sec.
C'est ça, c'est plutôt une succession d'adaptations, de paradoxes, de survie et parfois de contradictions totales. Et c'est le paysage fascinant que dessinent les pages très très denses de l'édition numéro 135 du magazine L'OJ Media.
L'édition iWeek datée de juillet 2026, ouais.
Tout à fait.
Le spectre couvert par ces documents est vertigineux, il faut bien le dire. La rédaction nous fait passer d'analyses sportives très pointues post-Coupe du Monde à des bouleversements géopolitiques mondiaux.
Sans oublier la météo, l'économie.
Absolument. Mais si l'on prend un peu de recul, le fil conducteur qui relie toutes ces sources, c'est l'étude en temps réel de la façon dont les systèmes réagissent face à une pression extrême, pour éviter l'effondrement.
Alors, avant de nous lancer, et puisque les documents du jour abordent des trucs vraiment hautement électriques, une précision vitale s'impose pour ceux qui nous écoutent.
Ouais, c'est super important.
Les sources naviguent à travers des sujets politiques et géopolitiques extrêmement polarisants. Ça va des élections en Europe jusqu'aux conflits militaires ouverts au Moyen-Orient. Donc, il est crucial de souligner que notre démarche aujourd'hui est d'une neutralité absolue.
On ne prend aucun parti.
Aucun. On ne soutient aucune idéologie politique, on ne donne pas notre avis personnel. Notre rôle se limite strictement à rapporter et analyser les faits quels qu'ils sont présentés dans le matériel source.
C'est la seule façon d'aborder une matière aussi inflammable, de toute façon. Si l'on veut vraiment comprendre comment un système diplomatique ou militaire fonctionne, faut observer les rouages sans se laisser distraire par les passions. L'objectivité, c'est notre seul outil ici.
Ok, décortiquons tous. Commençons par ce qui illustre peut-être le mieux ce décalage total entre, disons, la perception médiatique de la pression et la réalité physique sur le terrain.
Tu penses au sport, là ?
Ouais. Dans les jours qui ont précédé le quart de finale de la Coupe du Monde entre la France et le Maroc, l'espace public débordait de métaphores météo dramatiques.
Ah oui, les supporters annonçaient un ouragan offensif.
Une tempête bleue, un cyclone sur le gazon, enfin, tout le vocabulaire y passait. Mais la source nous rappelle de façon assez glaçante que la vraie alerte météo, bah, elle n'avait rien d'une métaphore.
L'ironie de la situation est folle. Pendant que toute l'attention était fixée sur l'enjeu psychologique au Qatar, la Direction générale de la météorologie, la DGM, émettait une alerte orange bien réelle au Maroc.
Des chaleurs extrêmes, c'est ça, hein ?
Accablante. On parle de 45 à 47 degrés dans le sud, spécifiquement à Assazag, Tata et Zagora, et genre 43 à 45 degrés dans des zones comme Marrakech ou Kénitra.
C'est un contraste saisissant, quoi. D'un côté, une nation qui retient son souffle pour un drame sportif, et de l'autre, la réalité climatique qui pèse physiquement sur les infrastructures.
Et sur les corps, ouais.
Mais ce drame sportif, justement, l'éditorial l'analyse sous un prisme psychologique passionnant. Le match s'est soldé par une défaite 2-0 du Maroc.
Contre la France.
Oui, mais le diagnostic de la source est cruel. Le Maroc n'a pas tant perdu contre la France qu'il a perdu contre sa propre peur. L'analogie qui m'est venue, c'est comme avoir le volant d'une voiture de course, mais refuser d'accélérer par peur de l'accident.
C'est exactement ça.
Ils ont semblé paralysés, reniant le pressing haut qui avait pourtant terrassé le Brésil ou les Pays-Bas.
C'est un effondrement mental sous la pression, ni plus ni moins. Le seul élément du système qui a tenu bon, c'est le gardien, Yacine Bounou. Le document souligne ses 7 arrêts décisifs contre un seul pour Mike Maignan.
7 contre 1, c'est fou.
L'éditorialiste résume ce naufrage par une formule tranchante. Il dit « ce n'était pas France contre Maroc, c'était France contre Bounou ».
Ouais, c'est dur. Mais attends, il y a une contradiction statistique majeure dans la source là-dessus.
Ah ouais, laquelle ?
Bah, les chiffres officiels du match montrent que le Maroc a terminé avec 52% de possession de balles.
Oui, oui.
Mathématiquement, ils ont eu le ballon plus souvent que les Français. Alors,
Comment une équipe peut-elle avoir le ballon la majorité du temps et pourtant subir le match comme ça ?
Ce qui est fascinant ici, c'est la différence fondamentale entre, on va dire, l'illusion du contrôle et la création réelle de danger. Dans le football moderne, la possession, c'est juste un outil. Avoir le ballon dans sa propre moitié de terrain en faisant des passes latérales stériles, ça fait grimper les stats.
Mais ça ne sert à rien.
Bah, ça ne gagne pas les matchs. La vraie radiographie, elle se trouve dans une autre métrique, les expected goals, ou XG. C'est un modèle qui calcule la probabilité qu'un tir se transforme en but.
Et les chiffres font mal, hein, si je lis bien le rapport.
Ils sont sans appel. La France a terminé avec un XG de 2,96. Et le Maroc s'est effondré à un dérisoire 0,31.
Ah ouais, presque rien.
Concrètement, ça veut dire que la France a transformé chaque incursion en menace. Il rentrait dans la surface de réparation marocaine comme dans un moulin.
La source pointe directement le choix tactique de Mohamed Ouabi, l'entraîneur. Sous la pression, il a aligné Brahim Diaz comme faux numéro 9. L'idée, c'était de densifier le milieu pour étouffer les Français.
Sauf qu'un plan purement défensif face à une machine comme la France, c'est une invitation au désastre. Si tes joueurs sont tétanisés et n'osent pas se projeter vers l'avant, le faux numéro 9 se retrouve tout seul. La pression trouve toujours la faille.
Ce qui nous amène à la conclusion très philosophique de cet éditorial. Les véritables victoires d'une nation, celles qui transforment la vie des citoyens, elles ne sont pas sur un terrain de foot.
Non, elles sont dans l'éducation, la santé, le développement.
Exactement, les défis internes. Et justement, regardons un peu l'horloge interne du Maroc, parce que les défis structurels sont immenses. Les projections du Haut-Commissariat au Plan, le HCP, basées sur le recensement de 2024, dessinent un bouleversement complet.
Démographique, oui.
En 2060, le Maroc comptera environ 43,3 millions d'habitants.
Ça se stabilise.
Oui, mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce n'est pas le nombre total qui est frappant. D'ici 2060, un habitant sur quatre aura plus de 60 ans.
Wow.
10,9 millions de seniors. Contre 13,6% aujourd'hui. En gros, la nation passe d'un sprint de croissance à un marathon de gestion.
C'est un choc monumental. Une population qui vieillit à ce rythme, ça exige de repenser les hôpitaux, les retraites, les infrastructures urbaines.
Mais pour préparer cet avenir, la stabilité immédiate est vitale. Et on a eu un rappel brutal le 6 juillet.
Le démantèlement de la cellule terroriste, oui.
Voilà, lié à Daesh par la DGST et le BCJI. C'est lié à l'instabilité au Sahel.
Et les détails sont glaçants, honnêtement. 10 suspects interpellés dans 7 villes différentes. Ce n'est pas des loups solitaires, c'est un réseau structuré.
Et les saisies ?
C'est ça le pire. À Inès Gann, ils ont trouvé un 4x4 spécifiquement modifié, du matériel paramilitaire. On n'est plus dans la simple propagande, là on est dans la préparation opérationnelle.
Ça montre la pression sécuritaire énorme. Mais, et c'est le paradoxe des systèmes dont on parlait, malgré ça, le cœur économique bat fermement. La bourse de Casablanca reste hyperactive en plein été.
Ouais, 20 à 25% des volumes annuels entre juin et août.
La Banque Al-Maghrib a même maintenu son taux directeur à 2,25%, avec une prévision de croissance de 5,2% en 2026. Même si, bon, le secteur des bijoux encaisse un choc, le gramme d'or a chuté à 1020 dirhams.
C'est rude pour les bijoutiers. Mais au niveau macro, la machine tourne. Pour répondre au défi de 2060, la Banque africaine de développement a débloqué le 8 juillet un financement de 205 millions d'euros pour le PADIF.
Le projet d'infrastructure ferroviaire, c'est ça, hein ?
Exactement. Tout est lié. Sécurité, investissement, mutation démographique.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Parce que pour financer cet avenir, un pays doit maîtriser ses relations extérieures. Et là, on a un grand écart diplomatique parfait, notamment avec la France. D'un côté, l'ambassade du Maroc porte plainte en France après la profanation de son drapeau à Aubervilliers.
Un drapeau arraché, déchiré et brûlé, c'est très grave sur le plan symbolique.
Très grave. Mais le lendemain, Paris et Rabat finalisent la feuille de route Maroc Digital 2030 sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Comment on peut être en procès diplomatique le lundi et signer des traités technologiques le mardi?
Si l'on relie ça à une vision plus globale, c'est l'illustration de la compartimentation diplomatique. Un État sous pression ne peut pas faire de diplomatie émotionnelle. Les incidents sont isolés, traités par la justice.
Pour ne pas contaminer les intérêts vitaux.
Voilà. La France voit le Maroc comme un relais stable vers l'Afrique, surtout après l'effondrement dont parle le magazine au Sahel.
Ah oui, la rupture diplomatique totale avec le Burkina Faso, tous les diplomates français retirés avant le 6 juillet. C'est dans le sillage du Mali et du Niger.
La perte d'influence est totale. Et sur le plan intérieur français, la source note aussi la confirmation en justice de la peine de 3 ans de prison de Marine Le Pen sur les fonds européens.
Mais avec une réduction de sa peine d'inéligibilité.
Ce qui lui ouvre grand la porte pour la présidentielle de 2027. Et là, je rappelle notre règle de neutralité, on analyse ça purement sous l'angle de la stabilité européenne. C'est une donnée politique qui modifie les anticipations des alliés.
Bien sûr. Et si les relations bilatérales sont complexes, l'arène mondiale, elle, est littéralement en feu. On va parler du Golfe.
Ah, la poudrière!
Le chaos total. Au sommet de l'OTAN en Ankara, Donald Trump déclare que l'accord intérimaire avec l'Iran est, je cite, « terminé ». La trêve dans le détroit d'Ormuz s'effondre.
L'escalade est immédiate.
Les États-Unis frappent 80 cibles iraniennes, l'Iran riposte sur des bases américaines au Koweït et à Bahreïn. Et tout ça pendant que Téhéran est paralysé par les funérailles de Khamenei.
Le pays est en deuil national de 3 jours.
Et moi, c'est là que je suis perplexe. Face à ces missiles qui volent au-dessus d'un point de transit vital pour le pétrole, comment l'OPEP+ peut-elle décider sereinement d'augmenter sa production de 188 000 barils par jour dès août?
C'est leur 5e hausse consécutive, ouais.
C'est fou. La maison brûle et 7 pays de l'OPEP plus ouvrent les vannes.
Cela soulève une question importante sur la gesticulation militaire face au pragmatisme économique. Les marchés voient bien que la force militaire, souvent, ça sert juste à sauver la face, comme l'explique très bien l'article sur la puissance.
Ah d'accord, le théâtre politique?
Trump laisse une porte entrouverte à la diplomatie, et les courtiers voient que le trafic maritime recommence, donc l'OPEP plus parie sur le fait qu'il n'y aura pas de guerre totale.
Le flegme absolu.
C'est ça. Et à l'OTAN, la vraie guerre est aussi financière. Washington exige que l'Europe consacre 5% de son PIB à la défense d'ici 2035, fini les 2%.
C'est une facture astronomique, hein? Ça exigerait des coupes budgétaires massives en Europe.
Complètement.
Bon, si on résume ce panorama, on passe d'une défaite amère au Qatar, qui invite à l'introspection, au rajeunissement de l'Istiklal avec leur nouveau leader des jeunes, Mansour Lambarki.
Ouais.
En passant par les affrontements balistiques au Moyen-Orient, ce sont tous des systèmes qui cherchent à s'adapter face à des bouleversements radicaux.
Pour éviter la rupture nette, justement.
Ce qui m'amène à une dernière pensée, assez provocatrice, tirée du magazine. La ville d'Asila s'apprête à inaugurer l'espace Mohamed VI de la mémoire historique africaine.
Un musée, oui.
Dans un monde obsédé par la tech de 2030, les démographies de 2060, les missiles balistiques, pourquoi investir dans un sanctuaire dédié à la mémoire historique haïtienne?
C'est paradoxal, en apparence.
Mais peut-être que lorsque l'avenir est si volatile, que les alliances s'effondrent du jour au lendemain, la seule façon pour une nation de garantir son futur, c'est de sécuriser le récit de son passé.
Savoir d'où l'on vient pour affronter la pression.
Exactement. C'est une question qu'on laisse en suspens pour nourrir la réflexion de ceux qui nous écoutent. C'est la fin de notre plongée analytique dans les sources d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.
Merci, à très bientôt pour une nouvelle analyse.
À la prochaine, prenez soin de vous.